Bonsoir à tous. La mobilisation des parents d'élèves à la veille du CDEN qui doit entériner la carte scolaire et ses 29 fermetures de classes envisagées par l'éducation nationale dans les Deux-Sèvres. L'office de tourisme du Bocage-Bressuret a profité de l'arrière-saison pour former les hébergeurs qui jouent un rôle déterminant dans l'accueil des touristes. Une création artistique avec les habitants du quartier de Valette sera présentée ce jeudi soir à Bressuire. Un casino vient d'ouvrir à Saumur et la clientèle du Nord de Sèvres n'est pas négligée par un établissement qui doit son installation aux chevaux. Enfin, comme le veut la coutume, Poupée des Rails a annoncé sa programmation, toujours aussi déjantée.
La météo à l'issue du journal est toujours à la domination des nuages pour demain.
Un feu s'est déclaré hier soir dans la boulangerie Anzour de la chapelle Saint-Laurent, située à route de Bressuire. C'est un peu avant 23h qu'a été donnée l'alerte. 25 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place et pour toute la nuit, 5 personnes se retrouvent au chômage technique. Depuis ce matin, une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie qui s'est donc déclaré dans la boulangerie de la chapelle Saint-Laurent.
La mobilisation des parents d'élèves dans les écoles qui risquent de perdre une classe.
Le CDEN doit se réunir demain pour valider les propositions de l'inspection académique qui envisage 29 fermetures de classes à la rentrée prochaine dans les écoles publiques de Sèvrienne. Hier soir, une petite cinquantaine de manifestants se sont rassemblés devant l'école Boisdane à Bressuire où l'argument démographique a d'autant plus de mal à passer que la baisse des effectifs devrait très peu jouer alors que les inscriptions commencent tout juste. Alexis Provost, le représentant des parents d'élèves au conseil de l'école élémentaire, au micro de Jacqueline Pinon.
En l'état actuel des choses, non. Les effectifs de l'école élémentaire de Boisdane l'an prochain seront quasi similaires à ceux de cette année. Donc ça veut dire que nous aurons autant d'enfants, ou presque, à quelques enfants près, mais qui seront répartis sur 5 classes au lieu de 6, s'il y a fermeture de poste comme envisagé actuellement.
Parce que là, vous êtes sur une moyenne de 20-22 élèves par classe.
On passerait à 25 avec une répartition qui n'est pas encore définie parce que un peu complexe, avec des groupes à séparer. Par exemple, il y aurait 31 élèves en CE1, sauf qu'ils peuvent être que 24, donc il faut redispatcher, etc. Mais en moyenne, oui, on tendra vers une 25 élèves par classe, au lieu de 20-22 actuellement.
D'autant qu'il y a des difficultés qu'il ne faut pas nier.
Bien sûr, comme dans toutes les écoles, il y a des élèves à besoins particuliers, des élèves en situation de handicap, des élèves allophones, des élèves en difficulté. Et ces élèves-là seront d'autant plus en difficulté dans des groupes à 25, où évidemment les enseignants auront plus de mal à individualiser les pratiques.
Et là, vous vous dites, vous, pour ne pas saisir cette opportunité.
Exactement, au lieu de choisir une logique comptable de chiffres et de postes et de faire des économies, nous, on se dit justement que c'est l'occasion d'avoir un meilleur taux d'encadrement et de les accompagner au mieux.
La mobilisation donc à Boisdane, Bressuire, nous évoquions aussi ce matin. La mobilisation du côté de la Forêt-sur-Sèvre, l'inquiétude est grande aussi du côté du RPI Moutier sous Argenton, la Chapelle Gaudin. Alors que l'école de la Chapelle Gaudin a fermé l'an dernier, le regroupement pédagogique pourrait encore perdre une classe à Moutière en passant de 3 classes à 2 seulement. Charlotte Gaziglia est présidente de l'APE.
Ce qui nous inquiète, comme je pense chaque école, c'est à terme la mort de notre école. Parce que clairement, alors nous, il faut savoir qu'on n'a pas vraiment d'informations. C'est aussi ce qui est très frustrant et ce qui nous surprend énormément, c'est qu'il n'y ait pas eu d'alerte avant en fait. Que ça tombe un vendredi et qu'il y ait un vote très proche sans alerte avant. On passerait à des quintuples niveaux, ce qui est impossible pour une maîtresse et pour les élèves. On a lancé une pétition en ligne, donc qui a atteint, là on était à 162 signatures, pour un petit peu diffuser notre message. Ça fait un peu le tour de la France hein, avec toutes nos connaissances. Et demain, il y a le conseil d'école qui est prévu justement. Donc on mobilise les parents, les gens du village, donc de Moutier sous Argenton, d'Argentonnais, dont on fait partie, pour qu'il y ait un maximum de personnes et qu'on montre notre motivation à conserver la qualité d'enseignement qu'on a dans notre école, le plaisir des enfants de venir tous les jours et enlever la crainte qui nous menace en fait.
Et c'est demain que doit se réunir le CDEN pour valider ou non la carte scolaire. Les syndicats des personnels de l'éducation nationale ont également manifesté leur mécontentement. Delphine Bateau a interrogé le ministre de l'Économie et des Finances sur les conséquences de la hausse du coût des carburants pour les infirmières libérales et les aides à domicile. Les indemnités kilométriques en vigueur ne permettent pas de couvrir les frais de carburant de ces professions. La mobilité est indispensable à l'exercice de leur mission auprès des personnes vulnérables, en particulier dans les territoires ruraux. La députée de Sèvrienne demande à Roland Lescure de bien vouloir indiquer si le gouvernement envisage de mettre en place de façon urgente des aides ciblées pour les professionnels du soin et les aides à domicile.
L'Office de tourisme du Bocage-Bressuret a profité de l'arrière-saison pour former les hébergeurs.
Il y a plus de 500 hébergeurs sur le territoire et ils jouent un rôle déterminant dans l'accueil des touristes depuis le début de l'année. Ils se sont donc vus proposer des ateliers sur différentes thématiques. Les précisions de Véronique Burguin, chargée de mission, et Bruno Baudin, président de l'Office de tourisme.
Ce sont des ateliers qui sont professionnalisants. Les gens s'inscrivent par rapport à leurs appétences et par rapport à leurs compétences. Donc à chaque fois, il y a un intervenant aussi professionnel qui vient animer la réunion et avec qui on travaille en collaboration étroitement avec l'Office de tourisme.
Notre démarche d'accompagnement, c'est aussi de faire prendre conscience aux hébergeurs qu'on peut les accompagner et surtout qu'ils peuvent faire mieux. La qualité que je vais donner, qui correspond à toutes les fourchettes de prix, va permettre de donner une image aussi positive de notre territoire et de fixer. Donc c'est tout le but de l'accompagnement. Et 150 c'est bien, mais j'aimerais qu'il y en ait 200, 250, parce que ça montrerait qu'on embarque tous nos hébergeurs vers une démarche de qualité, surtout que ces prestations sont gratuites et qu'elles sont vraiment faites dans une notion de service pour améliorer et leur faciliter la tâche.
Des ateliers qui ont donc rassemblé près de 150 hébergeurs, dont une petite trentaine hier sur le dernier volet consacré à l'accueil vélo. L'Office souhaite développer le tourisme autour du vélo, une mission confiée à Zoé Renard.
Pour un hébergeur, il faut qu'il soit situé à proximité d'un itinéraire à vélo, il faut qu'il soit également classé ou labellisé, et il faut qu'il ait des équipements pour les cyclistes, comme un local à vélo fermé, un petit kit de réparation. Il faut qu'il soit aussi capable de pouvoir conseiller les cyclistes sur les itinéraires à proximité. Et puis, il faut qu'il puisse proposer la recharge des batteries et des GPS pour les cyclistes.
Les voyageurs à vélo sont très attentifs quand même à ce label pour préparer leur voyage. Pour eux, c'est une vraie facilité.
Oui, c'est ça. En fait, grâce notamment au site de France Vélo Tourisme, et en l'occurrence sur notre territoire de la Ville Idéale, on peut retrouver les hébergements labellisés accueil vélo. Et ça permet aux cyclistes qui font de l'itinérance de pouvoir faire étape et de savoir où est-ce qu'ils peuvent s'arrêter pour dormir.
Il y a actuellement 5 hébergeurs labellisés accueil vélo sur le Bocage Bressuret, dont le cadre vert à Noël-des-Aubiers qui accueillait cet atelier.
Une création artistique avec les habitants du quartier de Valette sera présentée ce jeudi soir à Bressuire.
Le rendez-vous est donné à 18h30 au Vélodrome. Il est conseillé de réserver auprès du théâtre car les places sont limitées. Ces détails pratiques étant donnés, intéressons-nous maintenant au contenu dans le cadre de la politique de la ville. Et en complicité avec la Marelle, Léonard de Vinci, le CSC, la Maison départementale des solidarités, de Sèvres Habitat et l'Aglo de B, Scène de territoire et sa directrice Béatrice Daupagne proposent une nouvelle création in situ.
C'est la 6e fois qu'on mène un projet donc dans le cadre du quartier Valette, donc autour de la notion d'habiter, puisque ce quartier va rentrer dans une phase de rénovation urbaine. Là, c'était l'idée de rentrer en relation avec des habitants du quartier sur la notion d'habiter un chez-soi, enfin un espace plutôt intime, et puis d'habiter des espaces communs, ceux du quartier, où on peut espérer bien vivre ensemble.
Béatrice Daupagne a fait appel cette année à Sarah Elouni, associée au plasticien sonore Mathieu Delaunay, autrice et interprète. Déjà rodée à ce type de création, Sarah Elouni est partie d'une feuille blanche.
Oui, parce qu'on découvre un nouvel endroit, un nouvel espace, une nouvelle thématique, une manière d'entrer dans le projet de création et de rencontre. Donc là, effectivement, c'est la première fois que nous, on arrive sur Bressuire. Moi, je connaissais pas du tout le quartier Valette. J'avais jamais encore travaillé cette notion de l'habiter par le biais de l'intime vers l'extérieur. Donc ça nous a permis d'avoir un fil conducteur sur tout le projet qui a guidé un peu les rencontres et la manière dont on a proposé aux gens de se raconter en fonction des différents publics et des différents âges.
Ouais, c'est vraiment le recueil de la parole, hein, c'est le cœur de votre travail.
Oui, surtout sur cette restitution artistique où il y a vraiment deux axes. Il y a des portraits sonores qui ont été montés par Mathieu, Paul et Auguste et qui seront mis en écoute et proposés en écoute sur des installations sonores. Et puis à moi, mon travail effectivement de recueil et de comment est-ce que je vais rendre compte par mon propre récit de cette expérience du projet vécu et de cette immersion.
Une création soutenue par la DRAC à découvrir demain à partir de 18h30 au Vélodrome, repli au théâtre en cas de mauvais temps.
Grâce au cheval, Saumur s'offre un casino.
Tout nouveau, tout beau, le casino de Saumur, la ville du cadre noir, vient de voir s'ouvrir un complexe de jeux d'argent à l'enseigne Joa. Moyennant 15 millions d'euros d'investissement, la société lyonnaise implante ainsi sur les bords de la Loire son 34e casino qui a accueilli ses premiers joueurs et curieux fin mars. Une vraie reconversion pour l'ancien cinéma Le Palace, métamorphosé en un univers nouveau que décrit la directrice Laetitia Nespola au micro Colline de Dominique Aou.
C'est avant tout un lieu de divertissement. Des machines à sous et des jeux de table qui sont le cœur, le réacteur de notre métier. Mais parallèlement, on propose également un restaurant, deux bars et des soirées d'animation.
Qu'est-ce qui permet à Saumur d'accueillir un casino?
Les conditions prévues par la loi, c'est détenir un aura national géré par l'IFCE, proposer 10 courses d'envergure nationale et internationale et détenir une société de courses hippiques sur son territoire, sur sa ville. Une fois que la ville est éligible, la mairie fait un appel d'offres. Plusieurs groupes de casinotiers vont concourir sur les appels d'offres et puis le conseil municipal délibère et sélectionne la personne qui aura la délégation de pouvoir public. En l'occurrence, c'est Joa qui a été choisie pour avoir une délégation de pouvoir public pendant 20 ans. La mairie est propriétaire du lieu. La mairie a racheté l'ancien cinéma Le Palace aux anciens propriétaires. Joa a financé les travaux et paye un loyer à la mairie pour occuper les lieux pendant 20 ans. La spécificité de Saumur et tout son intérêt, c'est que la zone de sa chalandise actuellement est très large et couvre effectivement le nord de votre département, c'est vrai.
Peut-être certains joueurs du nord de Sèvres, Boquin, Toircel ou Dunay, figurent-ils parmi les 7000 visiteurs des tout premiers jours du casino saumurois, peut-être aussi parmi les 200 gagnants qui ont remporté entre 800 € de jackpot de 11 000 €. Pour résumer, en 5 jours, le casino Joa a distribué 285 000 €, soit un peu plus de 85% des enjeux, conformément à la loi qui, elle, ne doit pas grand-chose au hasard. De quoi redonner de l'espoir aux malchanceux d'habitude, tous les jours de 10h à 2h du matin jusqu'à 4h les week-ends, à consommer cependant avec modération. Reportage de Dominique Hérault.
Le festival de poupées n'a pas dérogé à la règle et a annoncé la programmation de Poupées des Rails en ce 1er avril.
Pas moins de 20 artistes, toutes générations confondues, interpréteront leurs plus grands succès devant 30 000 festivaliers. Les billets sont partis en 5 minutes lors de la mise en vente en octobre dernier. Des années 70 aux années 2000, il y en aura pour toutes les générations avec Gold, le sosie de Claude François, Lou Béga, Camaro, Billy Crawford, La Rousseau, La Sketchup, Sébastien Patoche, Charlie et Lulu, Marcel et son orchestre, Lord Co-City, collectif métissé pour ne citer que. Le festival réserve aussi quelques surprises. Thomas Mindron, le directeur de Poupées.
Peut-être que le plus gros défi, c'est pas avoir la prétention de renouveler 100% de la programmation chaque année, parce qu'effectivement, on est dans une sorte de niche, hein. Par rapport à cette programmation, mais sur les vingtaines d'artistes qu'on annonce chaque année, on s'applique en tout cas à aller rechercher au moins la moitié de nouveaux, c'est le cas cette année, et je pense que les gens ne vont pas être déçus de la fête, en tout cas ils n'ont pas l'air de l'être depuis l'annonce. Voilà, après on peut parler des artistes en question, hein. C'est vrai qu'ils ne sont jamais venus, il y a Camaro qui n'est jamais venu, on a les 3T, les neveux de Michael Jackson qui vont venir chanter les Jackson 5, je pense aussi à Fred Testo, là, qui a inventé son personnage de Jojo Fantasy, qui est devenu célèbre avec l'émission LOL sur Amazon Prime, ou encore la Reine des Neiges, qui est la voix officielle qui va venir chanter Libérée, Délivrée, on l'a déjà en tête. Cette année, c'est Poupées des Rails, son cirque, donc on va retrouver aussi des performeurs, des acrobates, et tout un décor aussi qui va continuer à emmener les gens dans un univers de couleurs et de fêtes, puisqu'on en a plus que jamais besoin.
Les 30 000 billets ont été vendus, hein, je vous le rappelle, la seule possibilité de décrocher le précieux sésame reste l'inscription sur la plateforme officielle de revente accessible sur le site du festival. Vous pourrez aussi tenter de gagner vos places sur Colline très bientôt. Un petit mot de sport, le cycliste de Sévrien Thomas Gachignard s'est classé 43e de la classique belge à travers la Flandre, remporté cet après-midi par Filippo Ganna.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
On l'a tous vu, hein, c'était une domination des nuages ce mercredi.
Les nuages qui continuent d'occuper majoritairement le ciel demain, jeudi, avec de temps à autre des apparitions du soleil, un faible risque de pluie. Les minimales 6-7 degrés demain matin. Les maximales entre 13 et 15 degrés ce jeudi.
Voilà pour l'actu près de chez nous en ce mercredi. Merci Fabien, le retour demain matin.
Demain matin à partir de 7h avec Boris Blais. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.